La famille des Bourbons est partie cette nuit de Paris. On ignore encore la route qu'elle a prise. Paris offre aujourd'hui l'aspect de la sécurité et de la joie. Les boulevards sont couverts d'une foule immense, impatiente de voir arriver l'armée et le héros qui lui est rendu. Extrait du journal de l'Empire, le 20 mars 1815.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au début de l'année 1815, Napoléon s'ennuie. Il se trouve à l'île d'Elbe, où les Alliés l'ont exilé à partir du mois d'avril 1814. Et à vrai dire, lui qui a dominé l'Europe s'ennuie à régner sur la petite île italienne, a passé en revue quelques bataillons de soldats, a fait faire des travaux, mais ces travaux sont finalement assez vite réalisés. Or, les nouvelles qui viennent de France et qu'il connaît lui donnent quelque espoir. En effet, si la volonté du roi Louis XVIII est de calmer la situation politique et de se montrer indulgent vis-à-vis de ceux qui ont pu servir les régimes de la période révolutionnaire et l'Empire, il y a dans les provinces françaises une situation politique extrêmement difficile. Il y a une partie des royalistes qui souhaitent finalement régler les comptes d'une vingtaine d'années où ils ont été eux-mêmes oppressés, obligés soit d'émigrer, soit de se cacher, soit finalement de souffrir des réalisations de l'Empire et de la Révolution auparavant. Il y a donc une tension indéniable sur le terrain. Sans compter qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont servi l'armée impériale, mais qui sont désormais des demi-soldes, parce que le roi de France n'avait pas besoin d'une telle armée, alors qu'il se présentait comme le restaurateur de la paix. Ces nouvelles, donc, vont encourager Napoléon à tenter, eh bien, ce qu'on pourrait appeler un coup de poker politique, puisque, eh bien, il y a un souhait chez certains Français, semble-t-il, de le voir revenir. Donc, il va quitter secrètement, le 26 février 1815, l'île d'Elbe, avec 6 petits bateaux, à peu près un millier d'hommes et quelques canons qui vont l'accompagner. Il débarque le 1er mars au golfe Juan, près d'Antibes. Il faut dire que cette entreprise paraît audacieuse parce que il est accompagné donc de très peu de personnes. Et puis, il faut voir que la réaction de l'armée royale est encore inconnue. Il annonce superbement que l'aigle va voler de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, mais a priori, rien n'est moins évident. D'ailleurs, il sait que la vallée du Rhône lui est défavorable, parce qu'elle est très majoritairement royaliste. Il s'engage donc par ce qui va devenir plus tard la route Napoléon, c'est-à-dire par les Alpes. Là, la région est restée bonapartiste. Les paysans l'acclament et les entrées dans les villages se passent très bien. Le 7 mars, il entre à Grenoble et le 10, il est à Lyon. Et enfin, en sortant de Lyon, en Bourgogne, il rencontre les troupes du maréchal Ney, qui avait promis à Louis XVIII de ramener l'empereur dans une cage de fer. Eh bien, en guise de cage de fer, Ney, à la vue de Napoléon, eh bien, se rallie à l'empereur qu'il avait servi pendant plusieurs années. Et donc, le 20 mars au soir, Napoléon peut rentrer aux Tuileries, porté en triomphe par une foule délirante. La veille, Louis XVIII et ses proches avaient quitté Paris pour se réfugier en fait en Belgique, à Gand. Seulement, la situation politique est beaucoup plus compliquée que ce que l'on pouvait espérer.
Thank you.
Le premier problème est l'état des soutiens à Napoléon. Il est indéniable que, en ce printemps 1815, il y a des soutiens, mais qui ne soutiennent pas seulement l'homme qui a été empereur, mais aussi l'homme issu de la Révolution. Il y a même une peur d'une révolution sociale. Des personnes à Paris défilent en criant « Vive l'empereur !» mais aussi « À bas les riches !» Et puis, Napoléon croit utile de se doter de ce qu'il appelle « ses bottes de 93 » et d'encourager les mouvements populaires. Seulement, ces mouvements populaires, il faut les contrôler. Or, celui qui a épousé Marie-Louise de Habsbourg ne peut pas se représenter seulement en empereur de la populace, comme certains le disent. Et donc, il ne veut pas apparaître comme le souverain d'une jacquerie ou, je cite encore, l'empereur de la canaille. D'autre part, il y a les libéraux. Les élites libérales ne voient pas revenir Napoléon avec grand plaisir, parce que, finalement, la charte octroyée par le roi Louis XVIII l'année précédente satisfaisait une bonne partie des revendications libérales. On installait une Chambre des députés, élue au suffrage censitaire. On pouvait envisager des débats parlementaires. On pouvait envisager également une presse plus libérée que sous la censure napoléonienne. Et donc, peu de libéraux voient avec plaisir le retour de Napoléon. Sans compter que dans bien des départements, en particulier dans le Midi et à l'Ouest, il y a une opposition royaliste, fidèle aux Bourbons, qui ne souhaite pas revoir la conscription napoléonienne. Et il y a 20 000 hommes qui sont envoyés dans les départements des Pays de Loire et de Bretagne pour maintenir l'ordre. Ces 20 000 hommes manqueront à Waterloo. Autre difficulté, c'est la menace extérieure. Les vainqueurs sont réunis à Vienne et ils ne sont pas favorables à ce retour. Ils ne souhaitent pas négocier avec Napoléon. Ils sont d'ailleurs, que ce soit Castlereagh, le Britannique, Metternich, l'Autrichien ou le tsar Alexandre II, eh bien encouragés par Talleyrand, qui est le ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII et qui garde son calme et demande finalement à ce que les alliés déclarent l'empereur des Français hors la loi, qu'ils le vouent à la vindicte publique et donc qu'ils préparent une nouvelle coalition qui serait destinée à lancer l'assaut final contre, je cite, « le perturbateur du repos du monde ». Donc Napoléon, qui sans doute ne le voulait pas, eh bien se retrouve face à la guerre. Il est donc obligé de lever une armée et de porter la guerre non pas sur le territoire national, mais en Belgique. Nous connaissons la suite. Cette campagne de Belgique, qui avait plutôt débuté de manière satisfaisante, puisque les Prussiens avaient été battus à Ligny par Napoléon, et il avait laissé le soin à Grouchy de les surveiller et d'essayer de les intercepter, il va désormais se retourner contre le commandant en chef des armées britanniques, Wellington, qui s'est retranché sur le plateau de Mont-Saint-Jean, près de Waterloo. Or, le 18 juin 1815, sur un sol détrempé par les pluies, avec des soldats fatigués, eh bien, la bataille va tourner à l'avantage de Wellington. Oh, ce ne fut pas simple, parce qu'il a dû résister aux assauts des troupes françaises, mais ce qui va être déterminant, c'est finalement l'arrivée des Prussiens, de Blücher, qui vont porter à 30 000 hommes de plus les troupes coalisées et donc permettre l'écrasement de l'armée napoléonienne. Nous avons des témoignages sur ce désastre, par exemple les journaux tenus par le capitaine Coignet. Voici un extrait. « On ne pouvait se faire jour à travers cette foule ébranlée par la peur. Ce fut bien pis quand nous fûmes arrivés à Jemappes. L'empereur essaya de rétablir un peu d'ordre parmi les fuyards. Ses efforts furent sans succès. Rien ne pouvait les calmer. Ils n'écoutaient personne. Les cavaliers brûlaient la cervelle de leurs chevaux. Des fantassins se la brûlaient pour ne pas rester au pouvoir de l'ennemi. » Cette expérience des 100 jours, il faut la regarder avec lucidité. Indéniablement, le XIXe siècle en a fait un épisode romantique, la remontée vers Paris, le fait que cet homme quasiment seul a pu reprendre le pouvoir. Mais c'est aussi Ce que l'historien Emmanuel de Varesquiel a appelé la tentation de l'impossible, parce que qui pouvait sérieusement envisager que les alliés en particulier laissent Napoléon au pouvoir à nouveau? Il ne voulait plus courir de risques. Et je suis tenté de penser que même si Waterloo avait été un succès pour Napoléon, eh bien les alliés auraient continué la guerre. Les Autrichiens et les Russes n'étaient pas encore arrivés sur les terrains d'opération. Et donc, sans doute qu'au bout de cette expérience, eh bien, il y avait une défaite de Napoléon. Donc, il est probable que ces 100 jours ont coûté cher, finalement, à la France. Parce que si les Alliés avaient été, en 1814, relativement bienveillants, eh bien, le second traité de Paris, lui, va être beaucoup plus strict que celui de 1814. On va enlever à la France, par exemple, ses forteresse qu'elle avait sur la rive gauche du Rhin. On va lui imposer une indemnité de guerre qu'il va falloir payer. Il y aura des troupes d'occupation autrichiennes, bavaroises, anglaises, hanovriennes, à l'est et dans le nord du pays. Et puis, il y aura aussi une répercussion, c'est que Louis XVIII va devoir sanctionner ce qui a été considéré comme une trahison. Et le maréchal Ney, qui avait espérer ramener au roi, en tout cas promis au roi, de ramener Napoléon dans une cage de fer, sera arrêté, jugé par la Chambre des Pairs et exécuté. Les 100 jours ont beau être romantiques, ils ont finalement coûté cher à la France.